Tipo di Radio France
Internazionale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac.
Ni hao.
Pour la guerre des médias que se livrent la Chine et les États-Unis désormais. Olia Horton de la rédaction en anglais.
Good evening.
À propos des essaims de criquets qui sévissent actuellement en Afrique de l'Est. Et Orlando Torricelli de la rédaction en espagnol.
Hola a todos.
Pour faire un point sur les élections en Bolivie. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir le discours d'Emmanuel Macron dans lequel le président de la République annonce son intention de s'en prendre au séparatisme islamiste. Orlando Torricelli, voilà une formule qui fait mouche et qui mérite une explication.
Oui, Philippe, jusque-là, c'est vrai, on utilisait la formule, les termes des communautarismes pour se référer au phénomène des replis sur elles-mêmes de certaines communautés, la plupart du temps musulmanes, allant jusqu'au refus des valeurs républicaines. Lors de son voyage, le président a choisi plutôt de parler des séparatismes islamistes, affichant par exemple sa volonté de cesser d'accueillir des imams détachés envoyés par d'autres pays.
Alors pourquoi ce changement de discours, sachant que le chef de l'État a dit n'être pas à l'aise avec le thème de communautarisme?
Sur ce phénomène des communautarismes, on a justement interviewé Henri Peña Ruiz, un philosophe, expert en laïcité et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.
Si, hay una manasa communautarista, pero todavía está muy lejos de haber vencido.
En résumé, quelle est son analyse?
En substance, il reconnaît l'existence d'une menace communautariste, tout en soulignant qu'il est très loin de s'être imposé dans la société française. Il énumère les principales causes de ce phénomène, cite les populations de confession musulmane ou au régime maghrébine, qui souffrent des discriminations à l'emploi, au logement, et pour lesquelles la promesse républicaine semble hypocrite ou vide, motif qui pousse certains membres de ces communautés à réaffirmer leur particularisme religieux.
Alors, particularisme qui poussait à ces extrêmes conduit ou pourrait conduire à ce que le chef de l'État qualifie de séparatisme, donc islamiste.
Tout à fait, c'est peut-être pour cela que les chefs de l'État préfèrent parler des séparatismes au lieu des communautarismes, un terme qui pourrait toucher un public beaucoup plus large.
Oui, un public, un électorat qu'il faut ménager en période préélectorale. Les municipales, c'est dans 3 semaines.
Certainement, Philippe, à ces propos, notre interviewé Peña Ruiz s'est pas privé de faire un commentaire.
Claro que en el contexto préélectoral de las elecciones para los ayuntamientos.
Que dit-il?
Il souligne que dans un contexte préélectoral, les municipales auront lieu le 15 mars prochain. Macron part en guerre contre le communautarisme en faisant peur aux gens, mais en même temps en les rassurant. Vous avez devant vous l'homme de la situation qui saura vous protéger face au péril. Donc, aborder cette thématique n'a rien de surprenant. La menace communautariste existe, mais on ne peut pas dire que le communautarisme religieux l'a importé.
Olia Horton, vous avez été attentive à ce qui s'est dit sur la chaîne anglophone de France 24, Debate, l'émission Debate.
Oui, tout à fait. On a entendu la voix de Nassira Genef Souliamas, un professeur de l'université Paris 8. Sa première réaction, c'est qu'elle constate que Macron joue avec le feu. Il met l'huile sur le feu. C'est une approche qui ne le différencie pas du chemin pris par d'autres présidents. Elle considère ses annonces comme une distraction pendant cette campagne pour les municipales et qui détourne le focus sur la réforme des retraites vers un sujet qui génère toujours beaucoup de réactions et d'émotions.
Et sur ce thème de séparatisme islamiste dont on parlait à l'instant avec Orlando, quelle est son analyse?
Elle était interloquée parce qu'elle a dit « je ne sais pas comment traduire ça en anglais ». Effectivement, c'était difficile à expliquer ça en anglais, mais elle évoque que ça peut aller dans les deux sens. Ce qui était intéressant, c'est que ça peut être vis-à-vis de le repli de la communauté musulmane en France, par exemple, mais aussi ça peut exprimer l'isolation et le rejet que cette communauté peut ressentir vis-à-vis de la société française en général. Elle donne un exemple des femmes qui portent le voile, qui ne sont pas acceptées pour cela, qui sont critiquées, et peut-être elles se sentent exclues de la société dans laquelle elles vivent.
Autre analyse, celle de Nassir Ahmed Chahid, qui est membre de la communauté musulmane Ahmadiyya.
Alors lui, il dit que le musulman doit respecter les lois dans le pays où il réside et doit faire les efforts pour s'adapter et que la loi est la loi. Il explique qu'il y a malheureusement les musulmans qui nuisent avec des actions qui nuisent les actions positives des autres. Il dit que le président a raison de défendre les lois de la France parce que c'est une attitude qui va profiter tout le monde au long terme sans discrimination. Et ils trouvent que c'est normal aussi que les mosquées soient payées par les membres et non pas par les États.
Erwin Roumilak, il est intéressant de voir comment les internautes chinois réagissent à cette politique, cette polémique interne à la France.
Oui, finalement. Je pense que c'est intéressant parce que quand j'écoute les deux collègues qui parlaient des réactions de ces experts, je vois que les internautes chinois ont complètement une autre opinion sur cette affaire. Quand on a la rédaction chinoise a publié un article sur une des mesures prises par Macron, c'est-à-dire l'arrêt des enseignements des langues étrangères ELGO à la rentrée en septembre 2020. Donc il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter. En fait, je vois que les commentaires peuvent être classés en trois catégories. Les uns sont plutôt très ironiques. Ils demandent où est parti le droit de l'homme et la démocratie de ces minorités en France qui prétend être le pays des droits de l'homme et des démocraties. Donc un commentaire est écrit ainsi. C'est bien d'être dans un pays démocratique puisqu'on a droit de réprimer la culture d'une communauté minoritaire avec une déclaration aussi solennelle d'un chef d'État. Cela fait référence aux critiques des Occidentaux sur le problème des droits de l'homme de Tibet et de Xinjiang que les Chinois considèrent comme une ingérence des affaires internes en Chine.
Alors il y a d'autres commentaires qui disent qu'il fallait enfin que la France prenne ce genre de mesures, puis d'autres encore qui critiquent le traitement des informations dans les médias. La Chine est-elle confrontée également à ce problème de séparatisme, Hermine ?
Oui, je viens d'évoquer le nom de Tibet et de Xinjiang, donc c'est-à-dire les deux régions soi-disant autonomes qui se trouvent à l'ouest de la Chine, qui posent beaucoup de problèmes, entre guillemets, au gouvernement chinois. Parce que pour les autorités chinoises, le mot séparatiste est lié étroitement au problème du Tibet, de Xinjiang, la région où la plupart d'habitants sont des musulmans ouïghours, mais aussi de Taïwan, de Hong Kong depuis l'année dernière. Les problèmes sont très différents de ces régions, chaque cas est spécifique, mais il y a un point commun, c'est-à-dire dans ces régions-là, de ceux qui demandent plus d'autonomie économique, culturelle, politique, sont considérés comme des séparatistes. Donc les séparatistes pour le gouvernement chinois les plus connus sont Dalai Lama, donc le chef spirituel de Tibet, et la présidente de Taïwan, Mme Tsai Ing-wen. Et l'année dernière, on a vu les manifestations dans la rue de Hong Kong. Et ce sont des jeunes qui demandent plus de démocratie, d'autonomie politique dans cette ville. Mais ils sont considérés aussi comme des séparatistes par l'opinion chinoise, tandis que aucune de leurs revendications mentionne le mot indépendante ou séparatiste. Donc l'année dernière, on a beaucoup parlé aussi des camps de rééducation des Ouïghours musulmans à Xinjiang. Ils sont considérés aussi comme des futurs séparatistes islamistes, voire potentiels terroristes. Donc chaque cas est différent, mais ils portent tous le chapeau de séparatistes dont l'opinion publique chinoise est très critique et hostile. Cela pourrait peut-être expliquer le ton de nos internets sur leurs commentaires.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. La rédaction en anglais, sachant que pas moins de 9 pays en Afrique de l'Est continuent de se battre en ce moment contre des nuées de criquets pèlerins. Ils ravagent les champs, dévorent tout sur leur passage et laissent derrière eux des récoltes décimées et des paysans ruinés. Au Kenya, songez qu'un des essaims a été estimé à 2400 km², une taille presque équivalente à la ville de Moscou. Et le dernier pays qui affronte ce problème d'insectes est l'Ouganda. Olia Horton de la rédaction anglophone, la situation est donc très grave.
Tout à fait. Même si ce phénomène est naturel et annuel dans cette région du monde, les essaims ou les nuées de criquets pèlerins de cette magnitude n'étaient pas vus depuis entre 25 et 70 ans dans certains endroits. Le dernier tendance a commencé en 2018 même. C'était à cause des cyclones qui passaient au-dessus de l'océan Indien, qui ont généré précipitations très abondantes dans les régions de la péninsule arabique. Et puis cette chaleur mélangée avec la pluie fait des conditions favorables à la reproduction de ces insectes.
Et un des pays les plus touchés par ce phénomène, c'est l'Éthiopie.
Tout à fait. Et ma collègue Anne-Marie Besada a été en mission il y a une semaine pour faire un reportage. Elle est partie dans l'est du pays à la recherche de ces bestioles. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, ils étaient déjà partis au sud. Elle explique avec les experts qu'il n'y a pas de danger individuellement avec ces insectes. Mais quand ils deviennent un groupe, un essaim, ils sont absolument redoutables, comme tu as dit dans ton intro. Il vaut mieux donc éradiquer quand ils sont petits et peu nombreux. Et effectivement, les Nations Unies estiment que les essaims de 40 à 80 millions criquets peuvent consommer l'équivalent en nourriture de 35 000 personnes par jour. C'est incroyable. Mmh. Et Anne-Marie a parlé avec Mulatu Baye, un entomologiste qui travaille pour les Nations Unies dans cette branche. Il a expliqué un petit peu une des causes de ce problème.
We are not crossing our borders to support other countries, but we are suffering from.
Que dit le docteur Baye?
Il dit que l'Éthiopie souffre en partie à cause de la mauvaise gestion de leurs voisins, c'est la Somalie, qui a refusé d'utiliser les pesticides au début du problème. Ils ont préféré utiliser des pesticides organiques pour protéger leur bataille, mais ils n'ont rien commencé encore et les criquets n'entendront pas.
Alors, comment est-ce que les paysans se préparent? Comment est-ce qu'ils gèrent cette situation actuellement?
Ben, l'Éthiopie a mis en place un système pour faire face à ce genre de menaces. Donc, ils ont des systèmes dans le ministère de l'Agriculture, aussi les centres de contrôle de criquets dans les régions qui se chargent de la pulvérisation aérienne. Il y a des gens partout dans le pays qui remontent des informations. Mais tout simplement, ça redevient aussi tout simplement un mécanique manuel, comme ici le Zeb Dawes Salato, qui est le directeur de protection dans le ministère de l'Agriculture. Il explique.
Yeah, airplane is recommended for a large size swarm. Which covers a large area.
Alors, il travaille pour le ministère de l'Agriculture en Éthiopie. Quelles sont les mesures qu'il met en place?
Il dit que les avions peuvent faire un spray sur les grands endroits, sauf que quand ils arrivent au village, il y a les gens coincés au milieu. C'est la méthode qui est mécanique, qui est recommandée. C'est tout simplement les villageois qui s'organisent en groupe pour sortir dans les champs très tôt le matin avec des bâtons et ils tapent sur les insectes parce que les insectes, tôt le matin, sont très endormis, explique le monsieur, parce qu'ils ont besoin de chaleur, de soleil pour démarrer leur journée.
Alors, ils passent à tabac les criquets, mais il faut savoir qu'il y a une technique très précise. Hein.
Oui, certainement.
Et il y a différentes méthodes de battre ces insectes.
C'est avec les bâtons, il dit. Après, il y a des gens avec des sacs à dos avec pesticides localisés qui peuvent utiliser. Tout à fait, le problème, c'est que battre les insectes les uns et les autres, ça fait aussi déplacer d'autres insectes dans les fermes plus loin et ça repousse le problème simplement chez le voisin.
Et si on veut en savoir plus, il faut aller sur le site de RFI en anglais pour retrouver justement toutes les interviews et les reportages de Anne-Marie Bissada. En l'occurrence, merci à vous, Olia Horton de la rédaction d'anglais de RFI. Après la guerre commerciale, en pleine épidémie de coronavirus, voilà que Washington et Pékin semblent s'être déclarés une guerre des médias. Alors que l'on entend le générique du journal télévisé de CCTV, la grande chaîne chinoise, Hermine Roumilac, de la rédaction chinoise de RFI, que s'est-il passé?
À vrai dire, cette générique me donne des frissons, parce qu'en Chine, à 19h de tous les soirs, on entend cette générique dans toutes les chaînes de télévision nationale ou locale. Donc, voilà.
Et là, on peut aussi l'entendre sur certaines chaînes câblées aux États-Unis et ça pose problème.
Oui, en fait, ce mardi, le 18 février, les États-Unis ont annoncé la modification du statut des 5 médias publics chinois implantés sur leur territoire. Donc, il y a l'agence presse Chine Nouvelle, Radio Chine Internationale, la télévision CGTN, donc c'est une filiale de CCTV dont la générique qu'on vient d'entendre, ainsi que les organes diffusant les quotidien du peuple et la China Daily, donc les journaux les plus importants chinois. Donc le gouvernement américain les considère plus comme des médias, mais des organes de propagande. Ils sont assimilés à des missions diplomatiques plus que journalistiques.
En même temps, c'est un secret pour personne. Les médias officiels en Chine, officiels, ils sont contrôlés par l'État, c'est logique.
Par le gouvernement, oui. Par le Parti communiste. Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche, en fait? Un petit détail qui n'est pas si... c'est l'année 2020, c'est l'année de l'élection présidentielle. Donc, les États-Unis ont l'intérêt à contrôler et renforcer leur surveillance sur les médias et les réseaux sociaux pour cette élection qui compte beaucoup. Donc, les hauts responsables du département d'État américain ont affirmé que les emprises étatiques des médias chinois s'étaient accrues depuis l'arrivée de président Xi Jinping, c'est-à-dire 2014. 2013. Donc, un haut responsable américain a déclaré aussi qu'il n'y a aucun doute que ces 5 entités sanctionnées par les États-Unis font partie de l'appareil de propagande de l'État parti chinois et qu'elles reçoivent des ordres directement d'en haut.
Quelles sont les mesures prises à l'encontre de ces médias ?
En fait, les mesures sont très insignifiantes parce qu'ils doivent, ces entités médias et les employés, de dorénavant fournir la liste de leurs employés chinois ou américains. Et les employés devront aussi obtenir l'approbation du département d'État pour acheter des propriétés aux États-Unis. Par contre, pour l'instant, aucune restriction ne sera appliquée aux activités journalistiques chinoises sur le sol américain.
C'est plutôt des mesures symboliques. Oui. Comment est-ce que Pékin réagit ?
Alors, Pékin a réagi très violemment. Le lendemain, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Geng Shuang, il a déclaré que les États-Unis se sont toujours vantés de leur liberté de la presse, mais ils s'ingèrent dans le bon fonctionnement des médias chinois aux États-Unis et entravent leur travail. Il a également annoncé que la Chine réserve le droit de répliquer dans le cadre de cette affaire.
Ouais, enfin, ils ont déjà pris des mesures, ils ont retiré la carte de presse de 3 journalistes du Wall Street Journal. Pour quelle raison ? Pourquoi ce journal est-il particulièrement visé ?
Ce journal est très dérangeant parce que l'année dernière, ils ont publié un article à propos d'un cousin de président chinois, Xi Jinping, donc le Pékin n'était pas très content, mais cette fois-ci, la raison annoncée par la Chine, c'est ça concerne un fait plus récent, c'est-à-dire ce journal a publié une tribune le 3 février en pleine épidémie de coronavirus avec un titre assez provocateur et très sensible en Chine. Le titre, c'est « La Chine est un véritable malade de l'Asie ». Donc l'auteur de cet article, ce n'est pas un journaliste, il est professeur d'université américaine, donc il s'alarmait sur le risque de l'épidémie de coronavirus basée sur l'économie chinoise et mondiale. Il critiquait aussi la lenteur supposée des autorités chinoises après l'apparition du virus en décembre dans la ville de Wuhan.
Malade de l'Asie, ça ne passe pas. Hein.
Ça ne passe pas parce que c'est une sorte d'appellation par les Occidentaux pendant la période coloniale du 19e siècle. Et donc les Chinois considèrent cette appellation très humiliante et offensante.
Hermine Roumilag, de la rédaction chinoise de RFI, merci à vous. Jeudi dernier, le tribunal électoral bolivien a décidé que l'ancien président Evo Morales ne pourra pas être candidat au Sénat, cela lors des prochaines élections qui auront lieu le 3 mai. Orlando Torricelli, de la rédaction en espagnol. Voilà ce qui constitue un sérieux coup d'arrêt à son retour en politique, puisqu'il avait démissionné en novembre dernier.
Ben oui, Philippe, pour mémoire, rappelons qu'Evo Morales a dû quitter le gouvernement en novembre dernier, poussé d'abord pour des très fortes mobilisations et surtout l'invitation pressante de l'armée, une invitation, disons, difficile à refuser, comme disait Marlon Brando dans un film devenu célèbre. Morales, donc, a quitté la Bolivie pour le Mexique d'abord, où il obtient l'asile politique. Ensuite, il s'installe en Argentine, toujours en qualité de réfugié.
Un statut qui va compromettre sérieusement sa candidature donc au poste de sénateur.
Ben oui, c'est les principaux arguments évoqués par les tribunaux électoraux boliviens pour justifier sa décision de l'interdire la candidature. Écoutons Waldo Albarracín, politologue, ex-allié de Morales, aujourd'hui très critique à son égard.
La cause légale pour laquelle non era possible que ces personnes.
Que dit-il ?
Il cite les motifs d'un point de vue légal pour lequel la candidature de Morales et d'autres n'était pas recevable, une disposition internationale et une autre nationale. La première correspond au statut de réfugié qui interdit donc aux réfugiés de faire de la politique. Or, être candidat à un poste politique constitue évidemment un acte politique.
L'autre motif ?
L'autre motif, c'est d'ordre national, c'est le fait qu'il a séjourné à l'étranger et donc interrompu la résidence, ininterrompue, etc.
Il ne sera donc pas candidat, c'est définitif ou est-ce qu'il y a encore des recours ?
On a posé la question à notre interviewé, mais il est plutôt sceptique.
Alors, que pense-t-il ?
Il dit qu'il y a toujours la possibilité de présenter un recours pour demander une révision devant la Cour ou, dans un deuxième cas, présenter un recours constitutionnel sans oublier la Cour et interaméricaine, mais c'est une autre possibilité.
Bien évidemment, la rédaction en espagnol suit de tout cela de très près, sachant que même si Morales ne peut pas être candidat, sa formation politique ne sera pas pour autant absente de ces élections.
Absolument, parce qu'elle est favori dans les sondages.
Merci Orlando Torricelli de la rédaction en espagnol de RFI. C'était Accent du Monde. À la semaine prochaine.